Merci beaucoup Mathieu Laurent. Prochain journal sur France Culture à 9h. Bonjour à tous, bienvenue dans le secret des sources.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources, Frédéric Métezeau.
Bienvenue ce matin dans le secret des sources sur France Culture, franceculture.fr et les réseaux sociaux. Question sur des révélations. Mardi soir à 22h, Mediapart et Libération affirmaient que la NSA américaine avait écouté les trois derniers présidents de la République française et mettait en ligne des documents fournis par Wikileaks, les rapports écrits de ces écoutes. Mais s'agit-il vraiment de révélations ou plutôt de confirmations? Sommes-nous encore dans de l'investigation ou bien dans le simple traitement de documents fournis par Wikileaks? Mediapart et Libé avaient-ils un calendrier bien précis en tête en sortant leur scoop la veille du vote solennel de la loi renseignement à l'Assemblée nationale? Nos invités ce matin sur France Culture, en studio, Amaël Guiton, journaliste à Libération.
Bonjour.
Bonjour. François Bonnet, journaliste à Mediapart.
Bonjour.
Damien Leloup, responsable des pages Pixel au journal Le Monde. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Nous ferons aussi un petit crochet par Berlin, voir comment la presse allemande a accueilli ces informations dans un pays très sensible à la question des libertés individuelles. Notre correspondant en Allemagne, Cyril Sauvageau, nous attend. Nos chroniqueurs ce matin, Élodie Font pour les images et les réseaux, et Fabrice Lorvaux, l'avocat du secret des sources. Vers 9h05, retour de mission, Antoine Marette, reporter à France Culture, nous racontera comment il a travaillé cette semaine dans la nouvelle jungle de Calais, là où vivent des centaines et des centaines de migrants.
Bonjour à tous. À la une aujourd'hui, trois présidents français espionnés par les services secrets américains. Les portables de François Hollande.
Les États-Unis au cœur du fonctionnement de l'État français au moins de 2006 à 2012, révèlent ce matin Libération et Mediapart qui ont épluché des documents de Wikileaks.
Wikileaks, l'organisation de Julian Assange, cet activiste recherché par les États-Unis et réfugié depuis maintenant 3 ans dans les locaux de l'ambassade équatorienne à Londres.
Peu importe qui espionne qui, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, le fond du problème, c'est que les autorités américaines dépensent plus de 60% du budget mondial de renseignement. Ils ont des dépenses, un budget qui est tellement important que ça représente une véritable menace pour l'indépendance et la souveraineté de la France et de l'Europe à cet égard.
On vient d'entendre un extrait des radios et des télés mercredi, mais Libé et Mediapart ont mis en ligne leurs articles la veille, mardi à 22h, après avoir appâté toute la sphère multimédiatique. Petit retour en arrière à 21h37, tweet d'Edoui Plenel. Attendez-vous à savoir, dans 20 minutes sur Mediapart.fr, des informations renversantes. À 18h, tweet de Johan Hufnagel, directeur adjoint de la rédaction de Libération. 4, comme 4 heures à attendre, et puis ainsi de suite, il continue le décompte. À 20h50, vous faites quoi à 22h? Venez sur libé.fr, et ainsi de suite. 22h, mise en ligne, et voilà ce que l'on a pu entendre à 22h et 22h30 sur iTélé et BFM TV.
Bonsoir, Edoui Plenel.
Bonsoir.
Ce que nous résume ici Wikileaks avec ce dessin, nos responsables politiques ont été écoutés. Et ce
pas seulement nos responsables politiques, en l'occurrence trois présidents de la République, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, mais la République. La République a été mise sur écoute par la National Security Agency, les États-Unis.
Bonsoir Laurent Geoffrin.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de la rédaction de Libération. L'ampleur de ces écoutes est incroyable.
Ce qu'on peut deviner, oui. Ce que nous publions, ce sont les documents qui montrent que et Chirac, et Sarkozy, et Hollande ont été espionnés. Alors on a des documents qui portent sur des dates précises. Il faut être, comment dire, rigoureux. Donc on a le texte interne à la NSA, qui sont des rapports d'écoute, où ils expliquent, voilà, Hollande a dit que, ou Sarkozy dit que, etc.
Edoui Plenel, directeur de Mediapart, Laurent Geoffrin, directeur de Libération, en direct sur deux chaînes d'infos quelques minutes après la mise en ligne des articles. Amaël Guiton, de Libé, c'est un beau plan com'.
Bah, en même temps, je ne suis ni Laurent Geoffrin, ni Edoui Plenel. Moi, je suis journaliste, donc c'est un peu piégeux de me poser la question à moi, pour le coup. On a été quand même toute la journée dans le jus, on va dire, parce que voilà, il fallait écrire, il fallait analyser, il fallait effectivement.
Et vous avez publié le lendemain matin dans Libé un article très complet en la matière.
Tout à fait, voilà. Donc il y a des gens qui ont le nez dans le guidon aussi. Et puis bon, après, évidemment, les journaux, les médias eux-mêmes élaborent leur stratégie de communication autour de ça. Mais ceci étant, vous avez probablement aussi vu passer sur Twitter une petite vidéo de Wikileaks qui était, on va dire, un teasing.
Alléchante.
Voilà, tout à fait.
Mais François Bonnet de Mediapart.
Mais vous voulez quoi qu'on cache de bonnes infos qu'on sort ? Enfin, ça fait partie aujourd'hui de... Voilà, bien sûr qu'on fait un teasing, c'est amusant sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui attendent, qui se demandent, tiens, qu'est-ce qu'il va y avoir dans Libération, dans Le Monde, sur Mediapart, etc.
On le fait aussi sur France Culture, d'ailleurs.
Donc vous le faites, tout le monde le fait. Et ça me semble tout à fait normal par rapport... C'est un moyen de dialoguer avec sa communauté de lecteurs. Donc, en plus, quand on a une bonne info, eh ben, autant qu'elle ait l'impact maximum. Donc je trouve que... Alors moi, ce qui m'a surpris, vraiment surpris, c'est l'ultra-réactivité des chaînes d'info, en l'occurrence BFM et ITL. Je pensais pas, pour tout vous dire, que ça allait partir à cette vitesse.
Ça
si
vous
fort.
A étonné?
Oui, ça m'a étonné.
Malgré la démarche
donc c'est...
De mettre en avant et de vouloir, à juste titre d'ailleurs,
oui,
mettre
mais
en avant vos
scoops.
Oui, mais
je vous dis ça très sincèrement, moi j'étais étonné par la puissance de l'impact de ces informations et l'immédiateté de la réaction de l'ensemble des médias. Je pensais que bon, ça prendrait un peu de temps, comme c'est souvent le cas, que ça serait...
C'est aller au-delà de vos espérances alors
que, bah, vous savez, on n'a pas des espérances, simplement quand on a de bonnes infos, eh ben, on essaye de leur donner le retentissement maximum. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Est-ce que vous avez pu quantifier, mesurer à Libération, à Mediapart, le nombre de connexions supplémentaires, peut-être de ventes supplémentaires, d'abonnements supplémentaires? Vous savez si ça a suscité beaucoup d'adhésions, beaucoup de réactions?
Ça a été manifestement très, très suivi et très, très vite sur Internet, enfin, en tout cas de notre côté. Je pense que.
Pour Libération,
côté de,
donc.
Voilà, et du côté de Mediapart, oui, c'est la même chose, mais en même temps, c'est assez logique. On parle de président de la République française quand même, donc c'est quelque chose de très concret. C'est des figures qui sont évidemment extrêmement symboliques et ça paraît assez logique quand même que ça intéresse énormément de lecteurs, enfin, me semble-t-il.
François Bonnet, Mediapart.
Oui, bien sûr, l'impact a été très fort. À partir de 22h, on voyait effectivement les courbes de consultation du site qui ont doublé, qui ont triplé. Oui.
Réaction recueillie le lendemain, mercredi, à l'Assemblée nationale, l'ancien ministre de la Défense, Hervé Morin.
J'ai jamais eu le sentiment que je ne pouvais pas ne pas être sur écoute. C'est une demi-nouvelle que celle-ci. C'est pas pour autant acceptable, mais en même temps, ça m'étonne pas du tout.
Voilà, on peut résumer les propos d'Hervé Morin au micro de Stéphane Leneuve sur France Inter. Je m'en doutais, c'est ce qu'on lit dans vos articles. Vous avez interviewé des diplomates qui disent « Je savais bien que si je parlais au téléphone, j'étais écouté, il faut pas être dupe non plus ». Alors, si on dit « je m'en doutais », c'est des révélations, c'est des confirmations, ça étaye des choses qu'on savait déjà,
Amaël Guiton ? Disons qu'entre le fait de dire « on est ou on a été probablement sur écoute » et puis le fait d'en avoir la preuve tangible, c'est-à-dire des comptes rendus, il y a quand même, à mon sens, une différence. C'était précisément ce qui manquait à l'époque du scandale Merkel, c'est-à-dire qu'il y avait de très forts soupçons, mais il n'y avait pas de compte rendu d'écoute.
Scandale Merkel,
donc la chancelière allemande Angela Merkel,
a été écoutée.
Qui a appris que son téléphone portable avait été ciblé. Là, dans le cas qui nous occupe, dans ce qu'on a publié, Libération et Mediapart, on a des comptes rendus, donc on en a un témoignage, et entre le soupçon ou les on-dit, ou effectivement le sentiment général que de toute façon la NSA est surpuissante et peut espionner tout le monde, et puis la preuve écrite, c'est-à-dire des comptes rendus y compris assez détaillés, avec parfois des commentaires qui peuvent d'ailleurs sembler assez amusants au lecteur. Je pense notamment
Philippe Douste-Blazy,
qui était, paraît-il, selon la NSA, réputé pour sa maladresse. Donc on a à la fois le compte rendu, on a les commentaires effectivement de l'analyste. Enfin, on en apprend, moi je trouve, beaucoup sur la manière dont il travaille.
François Bonnet, vous pouvez... Oui. Allez-y.
Si vous voulez, on passe du soupçon à la preuve. Voilà. Il y avait évidemment un soupçon très fort. Et il y avait eu ce scandale, surtout avec la présidente brésilienne, Dilma Rousseff. Il y a eu d'autres chefs d'État latinos, etc. Donc, il y avait de très forts soupçons. on le documente et on amène les preuves matérielles de ce qui est quand même l'autre élément de révélation, c'est l'ampleur du système d'espionnage mis en place. Parce que bon, c'est une période sur une période de 10 ans, c'est 3 chefs d'État, et pas seulement. C'est
des collaborateurs,
c'est des hauts fonctionnaires, c'est des conseillers dans les cabinets ministériels, ce sont des diplomates. Donc, c'est pour ça que nous, on avait titré La République mise sous écoute, c'est que on est là face à une agence américaine qui a mis en place, sur la longue durée, un dispositif d'écoute systématique de tout l'appareil d'État.
Damien Leloup, vous êtes journaliste au Monde, vous êtes responsable de la rubrique Pixel. Vous avez également travaillé sur toutes ces problématiques d'écoute sur Wikileaks. Vous avez signé un article consacré au spectaculaire retour sur scène de Wikileaks. Quand on voit ce genre de publication, on est jaloux, on se dit « Tiens, j'aurais bien aimé que ce soit mon journal qui les publie. » Comment on reçoit ça, et comme journaliste et comme citoyen, mais comme journaliste d'abord?
Comme journaliste, bien sûr qu'on est jaloux. J'aurais préféré le publier chez nous. L'avantage par contre du teasing, c'est qu'il nous a aussi un petit peu alerté en amont et il nous a permis d'être assez présents dès le soir même. C'est aussi probablement un des facteurs qui explique le fait que les médias français aient beaucoup réagi dès 22h et que les informations étaient reprises très rapidement. Après, comme citoyen, évidemment, on est surpris, on est choqué, on est étonné en partie, parce qu'effectivement, comme le disait Amel Guiton, on avait de forts soupçons sur la présence d'un vaste système de surveillance de la NSA en France, mais on n'avait pas les preuves matérielles.
Expliquez-nous, Amel Guiton, François Bonnet, comment vous travaillez avec Wikileaks? Il ne s'agit pas, bien sûr, de nous donner vos sources, mais les documents vous sont distillés au fur et à mesure. Vous avez une grosse masse de documents qu'il faut ensuite traduire, analyser, commenter. Julian Assange, qui était sur TF1 le lendemain, expliquait qu'il y a un travail d'à peu près 3 mois.
Après, on est tenu à un certain devoir de confidentialité, évidemment, vis-à-vis de notre partenaire. Le fait est que on a accès à des documents qu'on analyse, qu'on essaie de comprendre. Une fois que effectivement on a réussi à comprendre tout ça, on est en capacité de les publier et de les commenter.
Et de mettre en perspective et de les mettre en perspective, quel contexte on lui les écoute.
Bien évidemment.
François Bonnet, Mediapart.
Si vous voulez, d'abord, on est, comme le disait Amaël, on est tenu à une certaine confidentialité parce que je pense qu'on sous-estime très largement l'incroyable pression que subit Wikileaks, Julian Assange et son équipe, et que là, il faut donc être extrêmement prudent par rapport à eux, ce qui effectivement nous empêche de dire un certain nombre de choses. Pour le reste, bon, nous, il se trouve que Mediapart, on a un partenariat assez ancien avec Wikileaks, depuis 4, peut-être 5 ans. Nous, on a des relations régulières, si vous voulez, depuis 4 ans avec l'équipe Wikileaks. On a organisé, par exemple, je me souviens d'une soirée publique organisée au Théâtre du Châtelet sur les lanceurs d'alerte, et on avait à la fois Assange et Snowden en liaison via Skype. Donc, on essaye d'entretenir des relations régulières avec cette équipe, pour deux choses. D'abord, pour évidemment la masse d'informations extraordinaires qu'ils sont susceptibles de produire, et pour une autre chose qui est véritablement, là c'est un engagement de Mediapart, qui est une campagne de défense des lanceurs d'alerte. Donc on est dans un paysage informatif nouveau. Je pense que tant Assange que Snowden sont d'une certaine manière des combattants de la liberté de l'information et qu'il faut impérativement les soutenir.
Vous parliez, François Bonnet, de la masse de documents dont dispose Wikileaks, et on apprend à la lecture de l'article de Damien Leloup que Wikileaks ne vit pas sur le stock d'informations, il continue à en recueillir. C'est ça qui est presque étonnant, c'est de se dire qu'il continue à recevoir et aller chercher des informations, alors qu'on imagine que tous les acteurs de cette grande aventure doivent être soumis à une pression extraordinaire.
Oui, mais parce que je pense et je crois savoir qu'il bénéficie quand même d'un très grand nombre de relais. Je ne connais pas du tout le détail de leur machinerie informatique, mais on est quand même dans quelque chose d'extrêmement sophistiqué. Il y a des mesures de précaution très importantes qui sont prises. Et voilà, et Wikileaks est devenu effectivement, au niveau mondial, l'une des grandes plateformes de révélation d'informations confidentielles.
C'est très bien raconté dans votre article, Damien Leloup. Dites-moi pourquoi Le Monde n'était pas dans la boucle cette fois-ci, alors que précédemment, Le Monde avait noué, je ne sais pas si on peut appeler ça un partenariat ou un compagnonnage avec Wikileaks.
C'est très simple, il faudrait que vous vous posiez la question à Julian Assange, puisque c'est Wikileaks qui décide avec qui il travaille et avec quel partenaire il travaille sur tel ou tel dossier.
Alors, on ne peut pas lui poser la question, mais va écouter Julian Assange qui était, on l'a dit, mercredi soir, invité du journal de 20h sur TF1, présenté par Gilles Boulot.
This is the beginning of a series.
Écoutez, c'est le début d'une série et je pense que les documents les plus importants restent à venir. Parce qu'il ne s'agit pas simplement des cabinets français, des dirigeants français qui sont ciblés, mais nous avons d'autres informations que nous avons déjà divulguées et qui sont beaucoup plus importantes que ce qui a été publié par rapport à Angela Merkel.
Très concrètement, quelles autres informations disposez-vous concernant messieurs Chirac, Sarkozy et Hollande?
Oui, nous avons d'autres informations qui vont sortir le moment venu. Il me semble que d'un point de vue politique, ce qui va sortir sera encore beaucoup plus important que ce que nous avons publié jusqu'à maintenant.
Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin sur France Culture, dans le secret des sources, François Bonnet, Amaël Guiton, dans combien de temps on peut espérer lire des nouvelles informations? Parce que là, Assange nous met l'eau à la bouche.
Écoutez, Julian Assange vous met l'eau à la bouche. Il y a eu déjà un certain nombre de déclarations mettant l'eau à la bouche. Je pense qu'en même temps, c'est pas forcément ici qu'on va vous révéler les scoops à venir.
Même pas le calendrier?
Non, pas forcément le calendrier non plus.
François Bonnet?
Non, parce qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail d'analyse de ces documents. Il y a une coordination à faire avec nos collègues de Libération. Et puis, je dirais que ça n'a pas grand intérêt que ça soit dans 2 jours, dans 4 jours, dans 6 jours. Nous, en gros, on publie quand on est prêt. Si vous voulez, vous avez demandé pourquoi maintenant dans votre introduction. C'est une question qui m'agace un peu parce que systématiquement, c'est une question qui est posée aux journalistes qui révèlent des grosses affaires. Je me souviens que quand on a sorti l'affaire Cahuzac et celle de son compte caché en Suisse, les deux questions c'était quelles sont vos preuves, alors que on donnait des éléments matériels. Et la deuxième question, c'était « Ah oui, mais pourquoi vous sortez ça maintenant ?» Mais un journaliste, quand il a une info, il la sort. Voilà, moi, je ne suis pas dans des calendriers.
Et quand il la sort, à quelques heures du vote solennel d'une loi sur le renseignement...
Ça tombe très bien en termes de pédagogie citoyenne. C'est impeccable. Parce que ça permet très exactement de montrer, au moment où un projet de loi extrêmement complexe, auquel, il faut le dire, l'opinion ne comprend pas grand-chose, il faut vraiment se plonger là-dedans pour comprendre. Et bien, de montrer quels sont les enjeux tout simples. La mise en place d'un dispositif de surveillance généralisé.
Alors justement, avant de parler de cette loi qui va occuper la deuxième partie de l'émission, la parole à l'homme de loi.
Le secret des sources, Frédéric Métezeau.
Fabrice Lorvaux, bonjour maître.
Bonjour.
Que dit la loi française à propos des écoutes téléphoniques?
Eh bien, le secret des correspondances téléphoniques, c'est une modalité de la vie privée, et l'on sait que la vie privée est protégée en France par la loi. Donc le principe posé par la loi, c'est qu'on n'a pas le droit d'écouter les conversations privées, et celui qui les écoute s'expose à des sanctions pénales, 1 an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende pour avoir espionné des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel. Mais on sait que la liberté n'est jamais ni générale ni absolue, et qu'il peut exister des restrictions si elles sont prévues par la loi et si elles correspondent à des objectifs qui sont prévus par la loi. Et donc en France, il y a deux types d'exceptions. Il y a les écoutes judiciaires et les écoutes administratives. Les écoutes judiciaires sont ordonnées par un juge d'instruction dans le cadre d'une enquête qui concerne un crime ou un délit qui serait puni de plus de 2 ans d'emprisonnement. Les écoutes administratives, elles, sont autorisées par le Premier ministre et si elles correspondent à un certain nombre d'objectifs. Alors c'est là où on rentre sur une liste qui est un peu longue. Aujourd'hui, avant la loi qui vient d'être adoptée, mais dont les décrets ne sont pas encore parus, on avait la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, la prévention du terrorisme, la prévention de la criminalité et de la délinquance organisée et la prévention de la reconstitution ou des maintiens des groupes de combat et de milices privées dissous.
C'est très vaste et c'est très flou à la fois.
Voilà, ça c'est le droit applicable à ce jour, avant la fameuse loi sur le renseignement. Donc cette fameuse loi sur le renseignement...
Oui, qu'est-ce qu'elle change ?
Malheureusement, probablement, elle va élargir encore plus les conditions dans lesquelles les écoutes administratives peuvent être effectuées. On a rajouté à la liste l'indépendance nationale, donc les menaces sur l'intégrité du territoire, les menaces sur les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère. Donc à l'extrême, avec cette loi, on pourrait maintenant espionner les États-Unis puisqu'ils ont fait acte d'ingérence vis-à-vis de la France en écoutant les hommes politiques français. Et on a aussi la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions, la prévention de la prolifération des armes de destruction massive, etc. Donc on a un allongement d'une part de la liste et de l'autre côté, on crée une mesure d'exception puisque jusqu'à ce jour, l'écoute administrative devait être autorisée par le Premier ministre. Et bien maintenant, en cas d'urgence liée à une menace imminente ou à un risque très élevé de ne pas pouvoir faire ces opérations d'enregistrement, eh bien on peut se dispenser même de l'autorisation du Premier ministre.
C'est un régime dérogatoire, quoi.
C'est un régime dérogatoire sans aucun contrôle.
C'est un régime d'exception qui est installé dans le paysage ordinaire de fonctionnement de l'État.
Fabrice Lorvaux, quelles conclusions on peut tirer spécifiquement de cet espionnage de la NSA, de l'espionnage des trois présidents de la République précités ?
Alors, ce qui est effectivement, il y a cette concomitance entre cette révélation qui est la veille de l'adoption de la loi et bien ces écoutes américaines, elles apparaissent comme une sorte de préfiguration ou d'avertissement des dérives qui ne manqueront pas d'intervenir, à mon sens, sur la base de la loi nouvelle, puisque, a priori, tout le monde est d'accord sur l'objectif poursuivi, tout le monde est d'accord pour qu'on protège la sécurité nationale et que cet objectif bien justifie de porter atteinte à une liberté individuelle. Mais d'un autre côté, lorsqu'on voit le résultat, on trouve parfois ce résultat délirant. Qu'aujourd'hui, je pense que les Français sont choqués de savoir que les États-Unis considèrent que la France pourrait, qui est pourtant un allié, est de nature à porter atteinte à sa
sécurité.
À l'intégrité
des États-Unis.
Voilà. Donc on a un paradoxe entre l'objectif poursuivi, qui est à la fois louable, et le résultat qui est obtenu, qui est délirant. Alors la mesure, c'est effectivement, il faut trouver une proportionnalité entre l'objectif poursuivi et les écoutes qui sont faites. Parce que si on a, par exemple, dans l'administration des adeptes de la théorie du battement de l'aile du papillon, n'importe quel fait tout à fait non signifiant, eh bien, peut entraîner une cause et porter atteinte à cet objectif et justifier une écoute. Donc pour cela, il aurait fallu impérativement instaurer un système de proportionnalité et seul le juge, qu'il soit administratif ou judiciaire, est à même a priori, de pouvoir vérifier s'il y a une proportionnalité entre la mesure décidée et l'objectif poursuivi. Et malheureusement, ce contrôle a priori n'existe pas dans la loi actuelle.
Merci beaucoup Fabrice Lorvaux. Pour ajouter encore quelques éléments de réflexion pour nos trois invités, Élodie Font pour la chronique Réseau. Bonjour Élodie.
Bonjour.
Le rapprochement sur les réseaux sociaux a été très très vite fait entre la NSA et cette loi sur le renseignement.
Et pour cause, on le disait, cette loi protectrice pour les uns, liberticide pour les autres, a été votée le lendemain, mercredi, à l'Assemblée nationale par les députés français, votée par une large majorité d'ailleurs. Et ce n'est pas une surprise, en première lecture, le 5 mai, 438 députés sur 577 avaient déjà dit leur accord avec cette loi portée par le socialiste Jean-Jacques Urvoas, qui dit d'ailleurs, au passage, s'être inspiré de Gandhi, qui, je le cite, affirmait que son exigence pour la vérité lui avait enseigné la beauté du compromis. Compromis raté ou réel, rien n'est en tout cas venu ébranler les convictions de l'Assemblée nationale en un mois et demi. Et pourtant, il y a eu de nombreuses manifestations un petit peu partout en France. Et surtout, mardi soir, veille du scrutin, coup de tonnerre, les révélations de Wikileaks publiées dans Libération et Mediapart. Alors, on se le demande évidemment, hasard de calendrier, coïncidence peut-être pas. Certains politiques s'en sont d'ailleurs émus. Et c'est le cas de François de Rugy, député écologiste, qui écrit sur Twitter « On publie des contenus d'écoute de président pour inviter, c'est mis entre guillemets, le mot est faible, les députés à voter contre la loi renseignement. » Dans la même veine, Éric Ciotti du Parti Les Républicains ajoute « Je ne crois pas au hasard, certains ont voulu faire un amalgame, rien n'est plus éloigné des pratiques de la NSA que ce texte. » En revanche, de l'autre côté, pour les politiques qui s'apprêtaient à voter contre cette loi, c'est une aubaine, on s'en doute. Parmi eux, le sénateur UDI Yves Pozzo di Borgo qui ironise « C'est l'arroseur arrosé, voilà un gouvernement qui vient de faire voter une loi sur les écoutes et qui se plaint d'être écouté. L'idée, c'était aussi bien dans Libération, Mediapart ou chez certains opposants, vous critiquez les pratiques américaines tout autant que vous êtes, mais c'est exactement ce que vous vous apprêtez à approuver avec cette loi. Et là apparaît un autre parallèle, on n'en a pas encore parlé, celui avec le Patriot Act, loi votée sous le coup de l'émotion après les attentats du 11 septembre 2001. Qui avait extrêmement renforcé les services de renseignement, même si c'était dans des proportions qui n'ont rien à voir avec la France. La NSA, elle compte quand même entre 30 et 40 000 agents à travers le monde et dispose d'un budget de 10 milliards de dollars. Parallèle pointé du doigt par Johan Hufnagel, directeur adjoint de la rédaction de Libé, on se met en position de tout analyser et d'écouter n'importe qui dans une société obsédée par le terrorisme. Sauf que ces moyens vendus aux citoyens pour lutter contre les nouveaux dangers du monde servent à bien d'autres choses. Alors on aurait pu penser que ces révélations auraient poussé certains députés à revoir leur vote, ce qui n'a pas été le cas, ou en tout cas à réfléchir à leurs pratiques, mais au fond, ça n'aura pas changé grand-chose. Pour preuve, le site Rue 89 est allé demander aux députés comment ils protégeaient leur communication, et tous leur ont ri au nez, arguant qu'ils n'avaient rien à cacher, ce qui va vous faire bondir autour de cette table. En Allemagne, plus conscient des risques d'être surveillés, de nombreux agents utilisent désormais des machines à écrire pour leur correspondance. Pire, non seulement cette double actualité n'a pas remis en cause la loi renseignement, mais en plus, à la une des journaux télé et radio mercredi soir, ces révélations sur les écoutes américaines ont considérablement écrasé le vote de la loi, voire l'ont totalement effacé. Par exemple, sur France 2, 10 minutes sont consacrées aux écoutes, 30 secondes seulement à la loi renseignement. On parlait tout à l'heure de la communication au sens large. Eh bien, cette communication autour des scoops, et notamment Julian Assange qui disait que dans les prochaines semaines, d'autres informations viendraient. Était-ce le bon, en tout cas, ou le mauvais moment dans ce cas précis? Visiblement, en tout cas, c'était déjà un petit peu tard pour remettre réellement en cause cette loi renseignement.
Élodie Font, alors beaucoup de grains à moudre, qui souhaite réagir? Amel Guiton de Libération.
Sur les communications et le fait que les parlementaires n'envisagent pas forcément de protéger leurs communications, je crois que précisément ce qu'on a publié avec Mediapart prouve bien qu'il y a une très faible prise de conscience, puisqu'en réalité, pourquoi est-ce que Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont pu aussi facilement être ciblés? C'est bien parce qu'ils protègent très mal leurs communications. On l'a écrit d'ailleurs, Nicolas Sarkozy comme François Hollande n'ont jamais voulu utiliser le fameux téléphone sécurisé qui leur est pourtant recommandé.
De marque Thales français.
Voilà, parce que ça n'est pas pratique, parce que c'est lourd, parce que c'est contraignant, etc. Et donc du coup, ils préfèrent rester avec leur smartphone et on en a le résultat.
François Bonnet de Mediapart, vous disiez tout à l'heure que vous vouliez faire œuvre de pédagogie. Vraisemblablement, la pédagogie n'a pas été suffisante. Vous conservez votre foi?
Non, mais si vous voulez, sur cette loi renseignement, qu'on ne se trompe pas, il s'agit pas d'un petit groupe d'activistes forcenés qui seraient opposés à cette loi. Ceux qui sont opposés à cette loi, ce sont tous les gens qui ont été en responsabilité ou qui sont spécialistes de ces questions et qui s'inquiètent de la teneur de ce texte. C'est pour ça qu'on a des élus de droite comme de gauche. Pierre Lellouche, qui est un très bon spécialiste des questions de défense, Hervé Morin, qui a été ministre de la Défense
pendant plusieurs années.
Laure de la Rodière, députée UMP, qui est une spécialiste des questions du numérique.
Internet.
Et par ailleurs, il faut ajouter à ça, ce qu'on appelle les instances administratives de contrôle. Relisez l'avis de la commission consultative des droits de l'homme sur ce texte, c'est proprement effrayant. Lisez
la Commission européenne a dit la même chose.
La Commission européenne,
la CNIL,
Jean-Marie Delarue, qui préside aujourd'hui la Commission de contrôle des interceptions et qui, au dernier moment, s'est mis en travers d'une manœuvre parlementaire faite à la CMP par Jean-Jacques Urvoas pour introduire en dernière minute un amendement proprement ahurissant. Donc, vous voyez, on n'a pas affaire à une sorte de ce que serait un groupe d'activistes des libertés numériques contre les pouvoirs établis. Pas du tout.
Damien Leloup, du journal Le Monde.
En fait, il y a une incompréhension majeure sur ces questions de surveillance qui est écoute et écoute. Que votre téléphone personnel, fixe ou mobile, soit mis sur écoute, c'est une chose, mais votre navigation Internet peut aussi être mise sur écoute. Si la NSA surveille vos déplacements via le GPS qui est dans votre téléphone, si elle sait à qui vous envoyez des SMS, à quelle heure, avec quelle fréquence. Donc tout ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire ce qui n'est pas le contenu d'un message, mais tout ce qui l'entoure, en fait, ça révèle une masse d'informations sur votre vie personnelle ou professionnelle qui est bien plus importante dans la quasi-totalité des cas que la simple écoute de vos communications. Et c'est pour ça que bon, effectivement, tout le monde souriait dans ce studio en entendant l'argument si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre. Mais je serais extrêmement surpris que l'ensemble des parlementaires de la représentation nationale soient à ce point confiants pour nous donner, par exemple, librement accès à l'intégralité des métadonnées de leur téléphone portable et de leur boîte email.
Petite question dans cette émission qui s'appelle Le secret des sources. Est-ce que vous, dans votre travail de journaliste, vous avez adopté une conduite différente
sur
l'usage d'Internet, du téléphone?
Bah c'est évident, enfin c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est dès lors qu'on s'intéresse à la collecte d'informations sur Internet, aux interceptions sur Internet ou sur les réseaux de téléphone, on sait techniquement à quel point il y a des points de vulnérabilité. Et donc par conséquent, dès qu'on travaille sur ces questions-là, on va évidemment faire attention à la manière dont on utilise Internet et on va se protéger, oui c'est évident.
François Bonnet,
oui,
Damien Leloup.
Je vais vous citer juste un exemple. Nous on a enquêté pendant...
Vous êtes revenu à la machine à écrire?
Non, mais je vais parfois effectivement, on enlève tout, les ordinateurs, les téléphones, etc. Je vous cite un exemple. On a enquêté pendant près d'un an sur les financements libyens de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. On a très vite été averti qu'on était placé sur écoute, de manière totalement illégale. Donc on a pris les précautions nécessaires et qu'on était placé par écoute par les services français ou des succursales des services français. Ce que je veux dire par là, c'est que la loi renseignement qui a été adoptée cette semaine définitivement légalise ce type d'écoute qui, il y a quelques années, était formellement interdite. C'est-à-dire que si vous prenez la notion d'intérêt national, tous les énumérants que vous avez cités, on tombe là-dedans. Donc, quel est aujourd'hui le paysage pour des journalistes menacés d'être en permanence surveillés? La loi renforçant le secret des sources, on l'attend toujours. Elle n'a pas été faite, contrairement à tous les engagements et à l'engagement de Madame Taubira. La loi sur la protection des lanceurs d'alerte, il y a un vague embryon de texte qui a été fait il y a un an et qui est justement défait par cette loi renseignement avec, pareil, un article introduit au dernier moment en commission mixte paritaire. Donc, je veux dire, pour ce qui concerne seulement le métier de journaliste, on est dans une régression très grave.
Allez, puisque l'avenir est un peu sombre, on va se détendre quelques minutes avec un peu de douceur. Il est bientôt 9h moins le quart. I bet we are all sinners, sinners. And yet we are all winners in our dreams. Until the winners come, we're at last all just beginners, it is seen. Some have it all figured out. I bet we are all lovers, lovers. But when will we learn to love each other? Free the nation starts within, and then with one another child. I just hope that there's some reason left in. Seem to have none of those where I come from. Where do I get to the rainbow? Where does that we keep you breathing? Charles X, Fork in the Road. C'est un extrait de son deuxième album qui est sorti au mois de mars dernier.
Nous voulons des renseignements. Des renseignements.
Le secret des sources.
Bonjour Cyril Sauvageau.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Berlin, correspondant de France Culture en Allemagne. On a parlé de l'Allemagne en début d'émission à propos des révélations du Monde en octobre 2013. Le Monde nous apprenait que la NSA écoutait Angela Merkel. Il y avait eu un retentissement énorme en Allemagne. En revanche, il y a trois jours, c'était pas vraiment le cas à propos des écoutes de Chirac, Sarkozy et Hollande. Ça a pas vraiment fait la une.
Non, pas vraiment. Alors, il y a eu bien sûr des articles dans la presse cette semaine, notamment dans des journaux comme la Süddeutsche Zeitung ou le Spiegel, qui suivent de très près ces affaires d'espionnage depuis 2013. Mais on va dire que ça n'a pas vraiment surpris les Allemands, qui ont déjà connu tout ça en long, en large et en travers, avec l'histoire du portable d'Angela Merkel et le vaste scandale des écoutes de la NSA. En revanche, il y a un point d'interrogation à propos de cette affaire ici. Est-ce que les écoutes de Chirac, Sarkozy, Hollande ont pu être menées en partie depuis l'Allemagne, depuis la station d'écoute de Bad Aibling en Bavière? Il y a quelques semaines, la presse révélait que les services secrets allemands, les BND, avaient aidé la NSA à espionner des cibles européennes, des entreprises et des personnalités haut placées au Quai d'Orsay, à l'Elysée. Il n'y a pas de détails plus précis pour l'instant, mais certains ici s'interrogent, et notamment un député vert très impliqué sur cette question, Constantin von Notz. Les écoutes pourraient, selon lui, aussi venir d'Allemagne et pas seulement du toit de l'ambassade américaine à Paris. Et
Cyril, les écoutes, l'espionnage n'ont peut-être pas fait la une. En même temps, la presse allemande en parle quasiment tout le temps, dans un pays, l'Allemagne, qui est très sensible à ces questions.
Ben oui, pour des raisons historiques évidentes. L'Allemagne a vécu sous surveillance à l'époque du nazisme, évidemment, et plus tard avec les écoutes de la Stasi, du temps de la RDA. Tout ça a rendu l'opinion publique extrêmement sensible sur les questions d'espionnage et de protection des données. Depuis 2013, par exemple, Edward Snowden est considéré ici comme un véritable héros. Mais ce qui a surtout choqué les Allemands dans cette affaire, c'est de découvrir que leur propre service secret, leur propre dirigeant peut-être, était de mèche avec la NSA, qu'ils aidaient les États-Unis à espionner des personnalités, des entreprises allemandes, et c'est vécu comme une véritable trahison. Et ça, c'est quand même un gros souci pour Angela Merkel. Sa crédibilité est entamée. Il y a encore beaucoup de questions. Est-ce qu'elle était personnellement au courant, ou en tout cas, est-ce que ses collaborateurs les plus proches l'étaient? L'affaire a pris une ampleur politique considérable. Ici, c'est peut-être même la première crise majeure pour la grande coalition qui est au pouvoir depuis un an et demi.
Oui, et la grosse différence entre nos deux pays, Cyril, c'est que les parlementaires allemands, par exemple, ont réagi beaucoup plus fortement que leurs homologues français. En même temps, c'est pas très dur.
Alors oui, il y a eu la mise en place début 2014 au Bundestag d'une commission d'enquête qui est composée de 8 députés, de la majorité et de l'opposition. Alors, tout se passe pas comme on aurait pu le croire ou l'espérer. Impossible, par exemple, d'auditionner Edward Snowden. Certains députés le souhaitaient, mais la CDU d'Angela Merkel a fait barrage pour ne pas froisser les alliés américains. En revanche, il y a quand même plusieurs hauts responsables allemands qui ont pu être entendus, et notamment l'actuel ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, ancien chef de la chancellerie, et les députés espère pouvoir entendre Angela Merkel comme témoin. Ce serait un vrai événement. Et ça, ils devront le faire avant de rendre leur conclusion début 2016. À noter enfin que, en ce qui concerne l'affaire du portable de la chancelière, la justice allemande a lancé une procédure l'année dernière, procédure qui a été classée sans suite il y a quelques semaines. On a quand même le sentiment que Berlin ne veut pas faire trop de vagues vis-à-vis de Washington. On a pu le constater dernièrement au G7 en Bavière. Angela Merkel n'a pas soufflé un mot de toute cette histoire dans ses échanges avec Barack Obama.
Merci beaucoup Cyril Sauvageau, correspondant de France Culture en Allemagne. Vous étiez en direct de Berlin. Bonne journée à vous. Alors, la réponse française, on en a parlé, on l'a vu à la télévision notamment. Conseil de défense à l'Elysée, François Hollande qui reçoit une délégation de parlementaires et Laurent Fabius qui convoque l'ambassadrice américaine en France. Tout cela en réalité n'est pas allé bien loin, mais... Élodie Font, le gouvernement a quand même voulu communiquer et mettre en image sa riposte, riposte entre guillemets.
Oui, et tout ceci a débuté avec un imposant téléphone noir comme il en existait il y a 25 ans. Un téléphone avec un fil, oui, qui tourne sur lui-même. On a découvert ce combiné sur une photo prise mercredi dernier du président de la République, François Hollande. Il est dans son bureau à l'Elysée, derrière une pile de dossiers, manière de montrer qu'il est très occupé, très concerné. Et derrière lui, sur une cheminée, on devine une photo de ses enfants et des petites voitures de collection. Et c'est le service communication de l'Elysée qui a posté sur Twitter ce cliché. Accompagné de cette légende, au téléphone, Barack Obama a réitéré sans ambiguïté à François Hollande son engagement de 2013. Autrement dit, le président américain a promis qu'il n'espionnait plus les hauts sommets français. En réalité, je ne sais pas si on peut parler d'engagement, et s'il en est un, il date de février 2014. Ce qui est intéressant, c'est que l'Elysée a copié la manière de communiquer de la Maison Blanche. Souvent, Barack Obama est pris en photo, téléphone à la main, quand son service de communication estime que le coup de fil est important et que l'on ne peut pas se contenter d'un communiqué papier officiel. Sauf que dans ce cas précis, les États-Unis n'ont pas vu d'intérêt à diffuser des photos de cet entretien téléphonique entre Obama et Hollande. Le sujet les intéresse assez peu, alors que le service communication de l'Elysée y a vu une occasion de montrer la fermeté de la présidence française. Il leur fallait cette image, c'était vraiment important pour eux. Et d'ailleurs, opération réussie, puisque c'est cette photo qui ouvre le journal télévisé de France 2 mercredi soir et de nombreux journaux sur les chaînes d'infos en continu. Cette photo aussi qui a beaucoup été reprise sur les réseaux sociaux. moquer aussi, parfois avec cette question que je trouve pertinente. Est-ce que l'on peut espérer que la ligne entre les deux hommes était cryptée? Autre image qui, vous allez le voir, va dans le même sens. Mercredi, Laurent Fabius, donc ministre des Affaires étrangères, convoque l'ambassadrice américaine Jane Hartley pour lui dire, il l'a répété plusieurs fois, à quel point ses écoutes étaient ou sont inacceptables. Normalement, les images que l'on a de ce genre de rendez-vous ministre-ambassadeur sont très pauvres en sens. La voiture de l'ambassadeur qui arrive, puis qui repart.
C'est un peu en catimini. Hein.
Oui, c'est ça. Rien de croustillant, rien à mettre dans les JT. Or là, et c'est très rare, les caméras ont été autorisées à pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Et c'est pour cette raison que l'on a vu en image l'ambassadrice au moment où elle sort de cette réunion. Sourire très très forcé, elle ne s'arrête pas devant les journalistes, contrairement à Fabius, triomphal, qui en profite pour donner une courte conférence de presse. C'est ce qu'on appelle une mise en scène politique, ces images, pour illustrer l'idée d'une France qui, que cette idée soit réelle ou pas, ne resterait pas les bras croisés face à son allié.
Oui, beaucoup de signes et très peu de sens. Merci beaucoup Élodie Font. Le mot de la fin, Amaël Guiton, François Bonnet, Damien Leloup, qui souhaite...
Il me semble quand même que c'est important de rappeler que à la fois les révélations qu'on a publiées et la question de la loi renseignement, ça met en lumière quand même ce qui est l'ultime zone grise de l'acquisition d'informations, qui est la surveillance internationale. Il y a eu un énorme débat en France sur la surveillance sur le territoire français. On parle d'extension des motifs, on parle d'extension et de légalisation d'un certain nombre de techniques très intrusives. Et la question, c'est est-ce que la future commission de contrôle sera véritablement, aura véritablement les moyens de contrôler tout ça. Mais sur la surveillance internationale, le contrôle est extraordinairement plus faible. C'est le vrai problème. On sait que les services de renseignement des pays alliés, à la fois probablement essaient d'en savoir le maximum les uns sur les autres, et en même temps échangent des informations. Le Monde avait parlé de cet accord de coopération entre la DGSE et la NSA qui aurait commencé à être mis en place à la fin 2011. On est un peu dans un jeu de dupes quand même. Donc effectivement, il y a les déclarations des uns et des autres, l'hypercommunication autour de ce qui est quand même un gros scandale. Et puis, il y a la réalité des prix qui est que ils ont besoin des uns et des autres, donc ils ne peuvent pas non plus réagir trop vivement.
François Bonnet de Mediapart.
Oui, il y a un autre enjeu, si vous voulez, qui n'est pas seulement politique. Il y a d'abord un enjeu privé. C'est-à-dire qu'un système de surveillance peut mettre en vulnérabilité des responsables politiques de haut niveau sur leur vie privée. En gros, le chantage, pour dire les choses clairement. Et il y a un deuxième enjeu qui dépasse largement la politique, qui est l'enjeu économique. Et c'est pour ça que, par exemple, certains parlementaires disaient une des mesures de rétorsion serait de suspendre les négociations sur le traité transatlantique, parce qu'on est évidemment dans une inégalité absolue si un système de surveillance concerne également les grands acteurs économiques. Ça avait été le cas, on l'avait su sur l'affaire Airbus, dans la guerre Boeing-Airbus. Bon, et là c'est pas possible. Là, évidemment, on peut pas rester dans des systèmes comme ça d'espionnage aussi méticuleux et qui truquent complètement le jeu économique.
Damien Leloup, du Monde.
Il y a effectivement une certaine ironie à voir François Hollande reprendre les codes de communication de Barack Obama, alors que justement, un des griefs que font les opposants au projet de loi renseignement, c'est de dire qu'on singe ce qu'ont fait les États-Unis il y a des années, mais mal. Au moment même où les États-Unis commencent, alors assez timidement pour le moment, mais à revenir sur leur programme de surveillance massive et à remettre un peu une forme de légère bride au coup de la NSA.
Merci beaucoup à tous nos invités, Damien Leloup du Monde, Amaël Guiton de Libération, François Bonnet de Mediapart. Merci à nos deux chroniqueurs du jour, Fabrice Lorvaux et Élodie Font. Il est bientôt 9h05, on va prendre la direction de Calais.
Le secret des sources.
Je m'appelle Alpha. Ça fait 3 mois que je suis ici. Je vivais à Paris, à Sarcelles-sous-les-Ponts. Après, je suis venu ici à Calais. On est venu ici la première fois, c'était la merde. On a défriché tout pour mettre nos maisons. Ça va quand même un peu mieux, même si tout va pas bien, ça va quand même un peu mieux. Là, c'est ma cuisine. J'ai mis mon réchauffage et tout. Et celui qui m'a amené, c'est le propriétaire de ce terrain. Au début, quand on était venu ici, il avait dit qu'il avait un fusil. Si jamais on fait quelque chose de mal, il va nous tirer. Et du coup, je lui ai dit, monsieur, on n'est pas venu pour faire la guerre. On n'est pas venu pour faire le terrorisme ou quelque chose pareil. On est des gens qui sont réfugiés. On n'a pas le temps de faire le mal à quelqu'un.
Pas le temps de faire du mal à quelqu'un. Bonjour Antoine Marette.
Bonjour Frédéric.
On vient d'entendre un extrait de votre reportage diffusé jeudi soir dans le journal de 18h sur France Culture. Vous vous êtes rendu à Calais, dans cette nouvelle jungle, ou jungle, hein, c'est selon. Qui est ce Alpha? Comment l'avez-vous rencontré?
Bien, j'ai rencontré le deuxième jour. Je suis resté deux jours dans ce camp. Le premier jour, je me suis promené avec un responsable d'une association qui m'a fait visiter les lieux. Je suis allé un peu en repérage, j'ai discuté avec quelques personnes migrantes présentes sur les lieux. Puis le deuxième jour, j'y suis allé tout seul. Et au milieu de ce camp, dans lequel il y a 2 000-3 000 personnes, il y avait un lieu vraiment qui sautait aux yeux immédiatement. C'était le lieu où habitait cet homme qui s'appelle Alpha, qui n'a pas voulu donner son âge, qui n'a pas voulu non plus me dire au micro d'où il venait.
Vous savez juste qu'il vient d'Afrique de l'Ouest.
Il vient d'Afrique de l'Ouest, c'est un Peul, donc c'est un nomade, et il a donc construit ce lieu de vie au milieu du campement.
Racontez-nous justement à quoi ressemble une jungle, vous journaliste, qu'est-ce que vous avez vu? D'abord, on n'est pas en ville, hein, on est un peu à l'extérieur.
Oui, cette New Jungle, comme on l'appelle, elle est en périphérie de Calais, à la limite de Calais, à 7-8 km du centre-ville. Donc les Calaisiens ne voient plus ces personnes migrantes, ils ne voient plus ce campement, ce bidonville, appelons les choses comme elles sont. Donc les Calaisiens ne sont plus confrontés à ce spectacle assez pénible qui est toute cette misère, toutes ces difficultés traversées par ces gens. Mais du coup, les journalistes viennent très nombreux parce que il y a des images absolument incroyables. On est entre la dune, les ronces, avec des campements de fortune la plupart du temps. Alpha, c'est plutôt l'exception. On a des bâches de plastique agricole qui sont tendues au-dessus de branchages. C'est un vrai bidonville.
Alors que lui, il a une espèce de petite maison.
Oui, il s'est créé un univers. Comme je le disais, il est Peul, donc il s'est fabriqué des huttes. Il est très astucieux. Il a fabriqué un poulailler, un potager. C'est un artiste également, donc il a peint sa case et il y a presque une atmosphère un peu chatoyante qui détonne au milieu de ce camp assez sinistre.
Et forcément, quand on est journaliste, bah ça vous saute aux yeux et ça vous donne envie de le raconter.
Oui, et puis il y a ce côté visuel qui n'est pas forcément évident en radio, mais il y a d'abord le discours. Alpha, c'est quelqu'un qui s'exprime très bien, qui explique très bien les choses. C'est ce qu'on appelle dans la profession un bon client.
Un bon client à tel point que les journalistes sont nombreux, vous le disiez, à venir dans cette jungle. C'est devenu un peu un passage obligé. Les associations voient les journalistes défiler.
Oui, alors quand j'y suis allé le premier jour, le temps était abominable. Il pleuvait énormément, il y avait de la boue partout, il y avait beaucoup de vent. Et le responsable de l'association m'a dit « Ah, aujourd'hui, il y a peu de journalistes, vous êtes seulement le troisième ». Et il me dit d'habitude, c'est une dizaine de journalistes par jour, du monde entier, notamment des journalistes britanniques, qui viennent d'Angleterre juste en face, l'Angleterre où un certain nombre de ces migrants souhaitent aller.
Antoine Marette, c'est facile de travailler dans ce site, un bidonville de 3000 personnes, beaucoup de misère, beaucoup de tension. Vous avez préparé le reportage, vous étiez accompagné, on pourrait dire, d'un fixeur?
Pas du tout, je n'ai pas ressenti cette tension dont vous parlez. Ça n'a rien à voir, parfois quand on va travailler en banlieue, c'est parfois un peu compliqué. Là, ça n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire, on sent un accueil, une timidité de la part des personnes que l'on croise, qui vous disent bonjour systématiquement. La plupart ne parlent pas le français. À aucun moment, je me suis senti en insécurité.
Des gens timides et surexposés médiatiquement, c'est paradoxal.
Alors surexposés, oui. Alors ils sont 2500 à 3000, donc chacun n'est pas surexposé.
Et puis ça tourne.
Ça tourne, évidemment. Alors il y a ce personnage, Alpha, qui a été interviewé par d'autres journalistes. Je l'ai su après.
Et c'est ça les bons clients?
Oui, exactement. Et donc lui, il est pas mal sollicité, mais la plupart des gens ne sont pas dérangés par ces journalistes.
Antoine Marette, merci beaucoup. Antoine, reporter à France Culture, on vous réentendra plus en longueur jeudi prochain à 7h30 dans le choix de la rédaction de France Culture et sur franceculture.fr où on verra les photos que vous avez réalisées dans cette jungle de Calais. Bonne journée.
Merci à vous.
C'est la fin du Secret des Sources, une émission préparée par Mathias Mégy et réalisée par Vincent Abouchard. À la technique cette semaine, Julie Delperroux. Vous pouvez réécouter le Secret des Sources, le podcaster, le commenter sur franceculture.fr. Le débat se poursuit aussi sur Facebook et Twitter. À 9h05, après le journal sur France Culture, réplique d'Alain Finkielkraut. Bonne journée, bon week-end à tous à l'écoute de France Culture.
On est là face à une agence américaine qui a mis en place sur la longue durée un dispositif d'écoute systématique de tout l'appareil d'État.
On sait techniquement à quel point il y a des points de vulnérabilité. Et donc par conséquent, dès qu'on travaille sur ces questions-là, on va évidemment faire attention à la manière dont on utilise Internet et on va se protéger, oui, c'est évident.
Je pense que les Français sont choqués de savoir que les États-Unis considèrent que la France, pourrait, qui est pourtant un allié, est de nature à porter atteinte à sa
sécurité. À l'intégrité des États-Unis.
Voilà.